matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir, avant-dernière soirée ce soir consacrée à poésie et histoire. Il y a des histoires anciennes, très anciennes, qui reviennent, des histoires d'exil, de naufrage, de souffrance, de joie aussi, d'emportement. Pour en parler, ce soir, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Marie Connet, qui est écrivaine, poète et traductrice, traductrice notamment d'Ovide, Les Métamorphoses, on va en parler. Bonsoir Marie Connet.
Bonsoir Patrick Boucheron.
Vous êtes née à Bayonne et vous habitez à Bayonne. Ça ne vous ressemble pas tellement d'ailleurs, cette stabilité, parce que votre littérature est une littérature de l'instable finalement.
Ça c'est vraiment une question. Alors je suis née à Bayonne, mais c'est quand même très compliqué parce que je suis née à Bayonne. Bayonne c'est une ville qui est au Pays Basque Nord, Pays Basque français, et je ne suis pas basque. Donc il y a quand même une sorte de chevauchement entre, en tout cas de décalage ou de, je suis entre les deux. Donc je suis, j'ai grandi dans les Landes, c'est à côté, mais n'empêche que c'est pas l'identité basque comme on l'entend. Donc je suis là sans y être, tout en y étant, je sais pas très bien.
Et vous avez enseigné dans un collège rural pendant longtemps. Vous avez traduit Ovide, on va y revenir. Vous avez également publié une vingtaine de livres. Le dernier, Les Enfants de l'Aurore, vient de paraître chez Fayard. On peut dire que c'est une réécriture de l'Iliade. Et justement, à partir de, sur cette question de ce que c'est que l'endroit où on vit, vous écrivez, Marie Connet, je ne suis pas sûr de savoir ce qu'est un endroit pur. C'est que je ne sais pas non plus ce qu'est un endroit impur, un endroit où les corps gisent, l'histoire m'ayant épargné l'expérience des guerres, combats, villes défaites, bombardements, rage et urgence de fuir. Et pourtant, vous êtes confronté directement à la méchanceté des temps.
Oui, c'est un beau hasard qui m'a épargné la méchanceté des temps en direct. Alors sur Les Enfants de l'Aurore, c'est une réécriture de quelques tout petits moments de l'Iliade. Trois petits moments de l'Iliade. Trois garçons qui débarquent.
Ça commence par Rhésos, c'est-à-dire c'est celui qui veut se battre.
Celui qui veut se battre, celui qui vient.
Contrairement à Achille, qu'il faut aller chercher.
Qui veut pas se battre.
Ouais, dans sa tente.
On commence avec Rhésos qui veut se battre à tout prix, dont on est persuadé qu'il ne se battra pas. Enfin, Hector est en tout cas persuadé, il arrive là, c'est trop tard, etc. Rhésos, lui, est persuadé qu'en une nuit, il va défaire tout le monde. Ça fait 9 ans qu'ils y sont, mais lui, en une nuit, ça va être terminé. Et puis, il arrive là pour rien. C'est un peu un coup pour rien. C'est tout et c'est rien à la fois. Et Achille, lui, c'est le contraire, puisqu'il ne veut pas y aller. Et il va y aller, et l'histoire se dénoue.
Donc ça, c'est à partir du livre 10, c'est ça, de Liliane, mais aussi d'une tragédie qui a été peut-être écrite par Euripide, c'est pas complètement certain.
Voilà, la tragédie, le Rhésos, moi au début c'est ça, c'est pas Euripide, enfin le pseudo Euripide, si c'est Euripide je sais pas, qu'il a écrit, que je me suis intéressée à Rhésos, je sais pas si je l'aurais, comme ça, s'il m'aurait tellement intéressée.
Oui, mais il y a aussi d'autres raisons qui font que ça vous appelle, ça se rappelle à vous, à notre souvenir, ces questions de guerre et d'errance.
Voilà, donc c'est un garçon qui part, qui quitte, quoi qu'il en soit, et quelles que soient ses raisons de quitter, et quelle que soit l'aventure qu'il va mener, c'est un garçon qui part, et qui part à la fois avec désespoir, puisque on spoile rien, il va pas revenir, aucun ne va revenir de ces trois garçons-là, mais à la fois qui part dans un immense élan de partir. Et c'était cet immense élan de partir que je compare, parce que c'est que ça que je compare, je crois, avec d'autres élans de partir contemporains.
Et comment vous faites, Marie Connet, justement, avec ce rappel des histoires passées, des histoires anciennes qui consonnent, on va le comprendre en échangeant ensemble, avec évidemment les hantises du contemporain, avec vos engagements aussi politiques pour les réfugiés, pour l'accueil des étrangers, de tout ça on va parler. Comment vous maintenez la distance poétique justement de cette... tous vos livres sont, je le disais, instables, c'est-à-dire que... D'une certaine manière, il y a à la fois de la poésie épique et puis toujours un peu de roman d'espionnage. Il y a effectivement des vers et en même temps des adresses au lecteur. Vous ne tenez pas en place du point de vue du genre littéraire.
Non, je ne tiens pas en place, sinon je m'ennuie très très vite. Alors, pour ce livre-là, ces garçons bien connus, Rezos, il n'est pas très connu, mais Rezos, Memnon et Achille, ces garçons d'autrefois, et les garçons qui traversent, qui sont anonymes, qui ne sont pas nommés, mais qui sont dans la deuxième partie du livre soudanais et dans la troisième partie guinéen, que moi j'ai connus, que je pourrais nommer, mais qui ne sont pas nommés dans le livre, entre ces deux garçons, enfin ces deux types de garçons-là, comment dire, il n'y a pas de. Je vis avec en fait. Le point commun pour moi, c'est que je vis autant avec les uns qu'avec les autres, et que ceux qui arrivent avec leur immense élan et leur immense désespoir concomitant, me rappellent les premiers,
oui.
Me rappellent les autres.
Vous vivez autant avec cette poésie très ancienne qu'avec ces étrangers d'aujourd'hui.
Ouais,
je me permets donc de dire que vous êtes la cofondatrice de J'accueille l'étranger, qui est ce mouvement, cette manifestation permanente pour rendre visible le peuple de l'accueil, dites-vous.
Voilà, oui, ce qu'on voudrait faire et ce qu'on pense qu'il est nécessaire et très très urgent de faire. On est plusieurs on est très très nombreux en réalité à revendiquer des étrangers qui traversent les frontières autant. Je pense à ce qu'on était en train de dire sur les jeunes garçons tout à l'heure, et je suis en train de penser à un jeune garçon, et c'est pour ça qu'il s'appelle Moïse. Il s'appelle Moïse Ovelos, il est togolais, il a 15 ans, et aujourd'hui il est bloqué à la frontière, il était bloqué à la frontière à Tanger, en fait, à la frontière de la mer. Il a trois fois pris la mer, trois fois été refoulé au Maroc. Et il a été refoulé au Sahara occidental, près de la Mauritanie. Ce garçon est bloqué par les mers, par les eaux. Ce jeune garçon Moïse, personne n'invente son prénom, hein, oui. C'est son vrai prénom, est bloqué là depuis un an, puisque à chaque fois il se fait refouler par les mers, mais par les gardes-côtes. Et voilà. Et c'est pas grand-chose comme petit signe que nous font les histoires, et c'est beaucoup à la fois. Les histoires nous font signe, même là. Voilà. Et en fait, on le bloque un an, on le bloque deux ans, mais on le bloquera pas. Il va passer, ce gamin, comme tous les autres, enfin, comme beaucoup. Alors, il va passer en risquant sa vie, il va passer en... les prix des passeurs, évidemment, vont monter aussi avec. Il va passer, à un moment donné. On n'empêche pas de passer.
Donc, vous militez directement, vous militez activement pour la reconnaissance d'une société plus hospitalière, en fait, qu'on veut bien admettre ou promouvoir du point de vue des pouvoirs publics. Et vous l'écrivez parfois directement, je pense à votre blog sur Mediapart, mais dans votre activité littéraire, Marie Connet, vous avez besoin de prendre ce qui n'est pas un détour, ce qui est justement une autre façon de restituer ce réel qui cogne aux tempes, c'est ça ?
Oui. L'expérience d'écrire, alors il y a deux choses. Dans l'expérience d'écrire, c'est un peu différent, les enfants de l'aurore, par rapport peut-être à ce que j'ai fait jusque là, parce qu'en effet ces gamins là que je rencontre dans le réel, ils paraissent, ils font un petit saut dans le livre comme ça, un petit passage, mais peut-être dans les autres textes, les romanesques,
on
je
va
sais
en
pas,
parler, oui.
Ils n'apparaissent ça pas.
Oui, donc il y a quelque chose quand même qui a un peu heurté la trajectoire que vous vous étiez donnée avec deux régimes d'écriture, on va dire, pour aller vite.
Oui.
Là, j'ai le sentiment que ça fait effraction.
Oui, c'est vrai.
Plus directement dans vos livres.
Oui, et je me demande pourquoi, et je crois que c'est... Je pense que ce que je disais tout à l'heure sur le petit Moïse, mais il y en a plein d'autres, des enfants, c'est, par exemple, il y a tous ces gamins qui arrivent parce que, alors, on milite, comme on l'a dit tout à l'heure, pour des causes dont on est sûr qu'elles sont, comment dire, pragmatiques et en fait, les seules possibles, à savoir que on peut pas empêcher, on peut pas créer un pays ou un continent forteresse et que forcément on va accueillir, mais en réalité au bout d'un moment on est cas après cas devant chaque cas bien obligé de singulariser, comment dire, et on finit par passer 6 mois de sa vie à se bagarrer pour le cas d'un gamin, d'un mineur qu'on tente de faire reconnaître mineur. Alors tout ça est très 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 précis finalement, c'est une bataille juridique, etc., qui nous aspire, qui nous épuise, etc. Mais dans ces bagarres juridiques-là, il y a beaucoup de... Et comme ce sont des enfants, il y a évidemment beaucoup de retours à quelque chose qui ressemble à nos histoires anciennes ou à nos histoires, pas forcément anciennes d'ailleurs, à nos histoires, à ce qui est fiction. Alors c'est là que ça s'est noué.
Et
là.
De toute façon, vous êtes persuadée, Marie Connet, parce que vous êtes poète et écrivaine, que dans ces histoires douloureuses et rudes de pouvoir se niche toujours inévitablement le langage. Je pense à ce livre paru en 2009, je crois, Entre chagrin et néant. Mm-hmm. Ça commence en 2008, vous êtes à Bayonne et vous suivez des procès, en fait, des audiences de sans-papiers. Et le livre que vous en tirez n'est pas un cri d'indignation, mais une restitution qui rend avec exactitude, au fond, la difficulté. Évidemment, faute de mots, beaucoup de ces sans-papiers sont déboutés, mais inversement, parfois, les juges renonçant à avoir des traducteurs en ourdou ou en hindi, relâchent les sans-papiers. C'est affaire de langage.
En fait, c'est très très juste la comparaison, parce que là aussi, il était question de quelque chose de très précis, en fait, et de très circonscrit, et dans le temps et dans le lieu. De la même manière, quand je dis qu'on passe énormément de temps à comprendre exactement comment ça se passe, le circuit, pour qu'un département reconnaisse un jeune enfant mineur et le protège, de la même manière là, c'était autre chose. C'était l'espace du tribunal, du TGI, pour des étrangers qui étaient en rétention administrative, mais qui, à ce moment-là, donc 48 heures après leur rétention, pouvaient passer devant le juge judiciaire, donc cet étrange juge administratif et puis juge judiciaire juste après, pour savoir si leur rétention était justifiée. Et donc c'est quelque chose de complètement bizarre, parce que ne concernant que les étrangers. Et c'était cet espace-là qui m'intéressait d'observer et d'entendre. En effet, il s'agissait de... Par exemple, on disait pas des détenus. C'est pas des détenus, ils avaient commis aucun délit, c'était des retenus. Alors, des glissements comme ça, des petites choses qui sont en train de nous créer un monde. C'est la même chose avec les enfants, des enfants qu'on reconnaît pas enfants. Et puis c'est facile, parce qu'en plus on a l'impression qu'on trahit aucun droit, puisqu'on dit, mais puisqu'on les reconnaît pas enfants, c'est qu'ils ne sont pas des enfants, donc on ne fait rien contre le droit des enfants. N'empêche que sur les questions de l'enfance, de la vulnérabilité, de la fragilité...
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ce qu'on entend, en fait, Marie Connet, c'est que c'est pas une question d'étranger, c'est une question de vulnérabilité. Ouais. Et au fond, toute votre poétique va peut-être tourner, enfin c'est comme ça que je le comprends, autour de l'expression littéraire de cette vulnérabilité. Par exemple, on va faire un... Je sais pas si c'est un jeu, mais enfin, bon, on va se livrer à quelque chose. Je vais vous lire un passage d'un de vos livres, puis peut-être vous pourrez faire de même, lire un autre passage d'un autre livre. Et ça a à voir avec ce pouvoir de dire et de nommer et d'interroger, de questionner, y compris dans une scène de pouvoir. C'est Aquero. C'est un livre qui est paru aux éditions de L'Ogre en 2017. Et ça parle aussi de Bernadette Soubirous. Voilà. Ça parle surtout de la vulnérabilité d'un corps féminin. Et une femme donc qui a des hallucinations donc rappelle justement le souvenir de février 1858 où Bernadette se fait interroger par un homme. Tu t'appelles Bernadette. Comment? Soubirous. François de père, Louise de mère. Louise comment? Soubirous. Non. Un piège se ferme sur elle, définitif. Cet homme face à elle, pourquoi est-il venu? Il veut le nom de sa mère. Elle regarde, Jacomet, de nouveau, et ça y est, ça vient, Castéro. Ton âge? 13 ou 14. Et un peu plus loin, alors comme ça tu vois la Sainte Vierge? Non, monsieur. Non? Je ne dis pas que je vois la Sainte Vierge, monsieur. Panique chez Jacomet. Bon, c'est une scène de langage. Elle va plus tard dire « Non, ce que je vois, c'est quelque chose de blanc, c'est une demoiselle, c'est le Christ qui ressemblerait à sa mère, mais alors, est-ce qu'elle est belle, cette mère ?» Alors moi, cette demoiselle, moi, comme je suis médiéviste, je pense à Jeanne d'Arc. Hein, mais c'est une scène de langage et c'est une scène de pouvoir.
Ouais. Et ce qui est... ce que j'ai, enfin, alors, plusieurs choses avec Bernadette. Moi, j'ai, donc, c'est une sainte. Enfin, elle devient une sainte. Elle se bagarre avec plusieurs choses. Elle se bagarre avec l'invisible qu'elle voit, puisqu'elle est la seule à le voir. Et voilà. Après, elle va se bagarrer avec les mots pour le dire. Et après, elle se bagarre avec son corps qui est tout le temps douloureux et qui en témoigne. Et ce corps qui sera sanctifié. Et c'est à la fois la fragilité la plus absolue et une immense force qui va de pair, qui est pas du tout opposée, qui est à la fois voilà. Et je crois que c'est ça qui peut-être le point commun avec les autres là, les garçons dont on parlait,
les garçons qui
ouais,
s'engagent,
ouais. Et puis et alors après, et là dans ce texte, dans cette scène là où Jacomet l'interroge, c'est aussi ne jamais pouvoir répondre de soi, ne jamais pouvoir dire ce qu'on veut nous faire dire, parce que c'est jamais... tu as vu la Sainte Vierge, elle a jamais dit ça. Elle a dit... donc, Aquero, ça veut dire ça. C'est le neutre, en fait. Elle a vu quelque chose de... C'est en occitan de Lourdes. Elle a vu ça. Elle a vu ça. Et c'est indicible, en fait. Alors, c'est invisible, c'est indicible. Et pourtant, elle l'a vu. Et en plus, elle le dit. Et c'est irréductible, en fait. Elle peut pas faire autrement.
Donc, il ne s'agit pas de dénoncer, il s'agit d'écrire et de restituer, et ce faisant, de faire voir ce point d'invulnérabilité, on va dire, de la poésie.
Oui, d'invulnérabilité. Alors, elle meurt jeune, son corps souffre énormément, on la voit à la fin, elle... c'est une invulnérabilité fragile.
Bon, et vous, Marie Connet, vous avez... Qu'est-ce que vous me lisez dans cette veine?
Alors, eh bien, c'est le jeune Marc Bourgodieu, donc qui s'engage dans un maquis du Médoc pendant la Résistance. Il a 15 ans quand il s'engage.
Ça, c'est un extrait de Éléphantesque.
C'est ça.
Qui est paru chez Chêne.
Ouais. Et alors... Il a été dénoncé, alors ça aussi, c'est la même chose, la personne qui l'a dénoncé s'appelle Couteau. On pouvait pas, c'est vrai, hein, c'est la, parce qu'on a, on a cherché dans les archives, etc. C'est le vrai maire de Saint-Laurent du Médoc à l'époque. On pouvait pas l'imaginer. Et Couteau l'a dénoncé parce que on lui avait volé ses vaches. Et donc il a dénoncé le maquis parce qu'il avait perdu ses vaches. Vaches que, alors que Marc Bourgodieu était déporté, était emprisonné, pas encore déporté, il était au Fort du Ha à Bordeaux, les camarades ont rendu à Couteau marqué sur le flanc du marteau et de la faucille. Oui. C'était, en plus, il faisait des blagues. Et évidemment que les vaches marquées comme ça, autant le nom de Couteau nous ramène un trait de personnalité du personnage, et à la fois les vaches marquées aussi à une vache qui cherche le lieu où habiter Thèbes, dans la sœur de Cadmos qui a disparu. Bon. Donc le mythe là, et les vieilles histoires qui viennent dans l'histoire. Alors, secret de Polichinelle, la haine de Couteau. Ça leur fera les pieds, après l'histoire de la gerbe des fleurs du 14 juillet. J'irai jusqu'à Vichy, mais je récupérerai mes vaches. Ils devraient se taire, ça leur fera les pieds. Se taire. Si les Allemands m'envoient ça, je serai fusillé. J'irai jusqu'à Vichy, mais je récupérerai mes vaches. Les vaches, butin de guerre, en 1944, valant 100 de jeunes hommes. Un garçon par génisse. Un hasard ou une erreur de greffier. 17. 17 vaches, 17 garçons. Pendant qu'un autre, un peu plus âgé que Marc, sur le Mont Valérien criait « Imbécile, c'est pour vous que je meurs ». C'est mon frère qui le raconte. C'est sa voix douce et précise qui le dit dans la nuit. C'est au téléphone. C'est mon frère qui m'appelle. C'est la fille de Paul Castin qui le lui a dit, qui le lui a raconté au téléphone et il me le raconte, mon frère. C'est ce qui est doux dans la nuit. Ces voix comme celle de Londres qui appelait, appelait, et que Marc écoutait, écoutait. Quand Couteau et Chanov, les deux imbéciles, savaient que Marc écoutait, écoutait. C'est mon frère qui le raconte. Je le tiens de mon frère et c'est de lui que je voulais le tenir. Quand Paul Castin et Émile Austin sont rentrés de Buchenwald, ils sont allés ensemble, Paul, Émile, Marguerite Petroni et André Adrien, visiter à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre Marc, qui rentrait de Lübeck, dans l'état que l'on sait. Ils sont allés au Kremlin-Bicêtre et ils marchaient entre les rangées de lits et de malades. Ils avançaient par les allées, dit mon frère, Virgilien pour l'occasion, dans cette nuit du téléphone. Ils avançaient dans les allées et ne voyaient personne. Et, dit mon frère, il y avait dans les allées ces visages tout pareils, la lumière du regard ôté. Et soudain, issu des allées, « Maman, c'est toi, maman !» Il y avait cette petite voix, dit la voix de mon frère.
Marcher tout l'hiver dans la poudreuse, jusqu'à la maison fleurie. Sous les montgolfières, nos vies heureuses. Que demander au Seigneur? On a fait de nos mains la pluie et le beau temps, un salon, un jardin, l'amour des paravents, pour mettre nos âmes à l'abri. Mettre nos âmes à l'abri. Des vues imprenables tombées du ciel, et nos regards s'attendrissent. Le temps d'une escale, goûter au miel d'un tout nouveau précipice. Que nos pas dans la neige nous redonnent la grâce, l'illusion d'un cortège, le parfum à la glace, de mettre nos âmes à l'abri. Mettre nos âmes à l'abri. Mettre nos âmes à l'abri.
France Culture, matière à penser, Patrick Boucheron.
Toujours en compagnie de la poète, de la traductrice, de l'écrivaine Marie Connet, qui n'est pas venue seule, qui est venue avec Alain Bachung. Pourquoi ?
Parce que cette chanson, ça fait pas très très longtemps que je l'ai découverte, mais je l'écoute énormément depuis, en boucle. Et puis elle me fait du bien. Et puis on a besoin de mettre nos âmes à l'abri.
mettre nos âmes à l'abri.
Ad vitam aeternam, on a même entendu un petit peu de latin. Parlons du latin, justement, Marie Connet. Vous avez publié une magnifique traduction valeureuse de d'Ovide, Les Métamorphoses, aux éditions de l'Ogre. C'est aussi gros que l'Odyssée. C'est combien, 12 000 vers?
Oui, c'est ça. Oui, c'est 15 chants de... C'est ça, c'est 12 000 vers.
12 000 vers, 240 et quelques transformations.
Plein de personnages, plein d'aventures.
Qu'est-ce qui vous a amené à traduire Ovide?
Alors, après coup, je peux dire pourquoi je crois que je me sens bien avec Ovide, mais oui. Au début, ce qui m'y a amené, je ne le savais pas, ça, au début, parce que j'avais fait comme tout le monde, j'avais lu des métamorphoses. Alors, je les avais lues en latin, souvent.
Cela dit, même si on ne les a pas lues, on les connaît quand même.
Oui, on les connaît.
C'est vraiment une œuvre matricielle.
Ouais. C'est vrai. Et la
lire, c'est finalement la reconnaître.
Oui, exactement. C'est drôle d'ailleurs parce que pour lui-même, enfin, il commence son poème en disant on va recommencer quelque chose, on va s'y prendre depuis ab prima, il dit prima ab origine, depuis l'origine, mais la première origine, comme si on avait besoin de dire que l'origine, c'est encore avant l'origine, en fait. On commence depuis le début des débuts, en fait, avant le début.
Je veux dire les formes changées en nouveau corps. Dieu, vous qui faites les changements, inspirez mon projet et du début du monde jusqu'à mon temps, faites courir un poème sans fin. Mm-hmm. Ce sont les premiers vers dans votre très belle traduction, Marie Connet. Les dieux, vous qui faites les changements. Donc on est effectivement dans une poésie de la transformation des corps et du langage en permanence.
Oui, en permanence. Et on ne s'arrête jamais. Et quelquefois, et puis il est tellement libre. Parfois, une métamorphose, ben, c'est même pas la métamorphose qu'on va voir, c'est l'installation, c'est la situation. Quelquefois, la métamorphose prend beaucoup de temps. Quelquefois, elle va prendre deux vers. Il en a marre, il passe à une autre. Il a cette instabilité dans le flot de son poème qui fait que moi, je l'ai suivi avec un grand plaisir.
Et comment vous avez fait ? Comment vous avez fait concrètement ?
Concrètement, quand j'ai commencé, c'est vraiment avec les élèves. C'est vraiment avec les enfants.
Donc des petits, hein, des
collégiens.
Des
collégiens, parce que j'enseignais au collège. J'ai enseigné au collège jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et en fait, avec les enfants, je pensais peut-être parce que ça me faisait plaisir, moi, et j'ai jamais supporté de m'ennuyer ou que ce soit, surtout pas au collège. Et donc, il fallait que chaque heure de cours, on apprenne quelque chose. Eux, mais moi aussi, en fait. Mmh. Et donc, je prenais un morceau, alors, Ovide beaucoup, mais Virgile aussi, Horace, Catulle, enfin, la poésie en général. Mais on avait commencé avec Ovide. Et il le traduisait. Et on partait du principe que même avec...
Des avec latinistes. Rien de latin, oui.
Voilà, avec un rien de latin, avec des latinistes débutants, à partir du moment où on savait la grammaire, les déclinaisons, les tableaux de déclinaisons, si on les oublie, ben on les avait sur la table, enfin c'était pas très... Et en tout cas, rien n'allait nous échapper, et rien ne leur échappait. Mais après, donc ça, c'était beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, mais un effort assez excitant quand même. Et après, chacun traduisait dans sa langue, en fait. En fait, comme il voulait, avec les libertés permises pour qu'il s'amuse un peu, etc. Et moi, j'ai fait ça. Et après, je continuais chez moi parce que je voulais leur amener le texte terminé, puisqu'évidemment, ils allaient traduire 3 vers, 4 vers, 5 vers, pas beaucoup plus. Et voilà, j'ai commencé comme ça.
Et on parle d'un collège rural, près de Bayonne.
Oui, oui.
Vous trouvez qu'on leur en demande assez aux enfants ?
Mais on peut leur en demander beaucoup.
Beaucoup, beaucoup plus.
Ah oui, j'ai fait ça dans un petit collège de campagne, ça s'appelle Bidache, c'est un petit village à côté de Bardos, c'est entre le Béarn et le Pays Basque.
Alors j'ai lu qu'ils se disputaient aussi sur les traductions, certains voulaient dire les choses plus directement, d'autres plus littéralement.
Oui, il s'est dit, ah oui. Et puis là, récemment, j'ai fait des ateliers de traduction, alors avec des un peu plus grands, mais au lycée. Donc des premières, des terminales, sur des textes très difficiles, sur Lucrèce notamment, que moi je trouve très difficile. Et j'étais impressionnée par... On a fait récemment, dans, là aussi, un lycée de campagne, un lycée rural, on est resté 6 heures sur 20 vers de Lucrèce. Et quand ça a sonné, enfin ils ont fait une pause au milieu évidemment hein, pour manger, mais quand ça a sonné à la fin de la journée, ils n'avaient pas fini, donc ils ont continué.
Ah oui, il se passait quelque chose.
Ouais. Ouais. Donc bien sûr que c'est passionnant.
Et pour vous d'ailleurs, puisque malgré tout, même si on croit connaître, voilà, on ne connaît pas tout, on découvre... Il y a des moments incroyables dans cette œuvre d'une puissance presque inentamée. Quelle est d'ailleurs la métamorphose qui vous effraie le plus ou qui vous touche le
Martias. Plus Je ne sais pas si c'est celle qui me touche le plus, mais Martias, c'est celle qui m'effraie. Alors d'abord, peut-être que je ne la comprends pas tout à fait. Je crois. Alors on peut l'interpréter de plein de manières. Donc Martias, il entend la flûte de Pan et il entend la lyre d'Apollon. Et il trouve que la flûte de Pan est plus belle, enfin il préfère en fait, il choisit la flûte de Pan plutôt que la lyre d'Apollon. Et il est condamné par Apollon à être écorché vif, on lui enlève sa peau. Sa peau qui est son enveloppe, mais qui est aussi le même mot en grec pour dire, alors pas en latin mais en grec, pour dire la forme, la beauté en fait. Bon, en latin aussi, forma, c'est la forme et la beauté, mais en grec, c'est la peau, c'est aussi la beauté. Et on lui arrache ça. On lui arrache ce qui le constitue, ce qui l'enveloppe. On le rend à quelque chose qu'on ne voit pas, à ce qu'on ne peut pas voir dessous en fait. Et tout ça parce qu'il a mal écouté. Enfin, parce qu'en tout cas, il avait un problème.
Il a mal choisi.
Il a mal choisi.
Une faute de goût qui lui coûte sa peau.
Ouais, mais plus qu'une faute de goût. Alors peut-être, mais j'ai toujours vu ça comme une faute d'oreille. Faute de goût d'oreille.
Et d'ailleurs, puisque vous parlez d'oreille, à la toute fin, le poète s'interroge. J'ai fini mon travail. Ni la colère de Jupiter, ni le feu, ni le fer, ni le temps vorace ne pourront le détruire. Quand il veut, le jour qui n'a de droit que sur mon corps, qu'il finisse mon temps incertain de vie immortelle en ma meilleure partie, par-delà les astres hauts, où me portera mon nom sera ineffaçable. Partout où s'étend sur les terres dominées la puissance romaine, la bouche du peuple me lira. J'irai connu à travers siècles, et s'il y a quelque chose de vrai dans les oracles d'un poète, je vivrai. La bouche du peuple me lira. C'est-à-dire que c'est très étrange d'ailleurs comme expression. Ça veut dire que oui, c'est ça. C'est fait pour être lu
à voix
entendu.
Haute. Ouais, ouais. Et c'est fait pour être lu à voix haute. La bouche du peuple me lira. Ouais.
C'est étrange quand même.
Ouais. Ça veut dire que on va lire à voix haute pour le donner à entendre.
Et tant qu'on le fait. Je vivrai.
Et tant que je le fais, je vivrai. Alors on continue, c'est bon.
Et on continue, oui.
Ouais.
Et les enfants, qu'est-ce qui les effraie le plus ? Arachné, quand même, c'est terrible, non ?
Oui, alors on a tendance avec les enfants à ne jamais lire les pires. Oh, les pires. Bon, encore dans Ovide, Médée, c'est pas la pire, parce qu'elle est sauve à la fin, et puis. Mais quand même, elle fait des magies, elle fait des sorcelleries. Mais ça, ils adoraient Médée, ouais. Elle fait des magies, bon, en vrai. Dans Ovide, elle tue pas ses enfants. Donc, oui, je crois que ce qui effrayait le plus les enfants, dont j'en suis sûre même, c'est toutes les histoires d'inceste, en fait. C'est les grands tabous, il y en a plein.
Mais cette poésie latine, Marie Connet, elle a aussi métamorphosé votre propre prose poétique.
Je crois.
C'est-à-dire que ça continue, en fait. Justement, ce que espérait Ovide continue. C'est-à-dire que c'est une transformation sans fin. Et vos livres, effectivement, je pense à Cordelia la guerre, par exemple, bah, d'une certaine manière, ils sont emportés par ces métamorphoses. Ils deviennent des romans d'espionnage, des romans d'aventure, de la poésie épique.
Oui, parce que, alors sur le genre, c'est sûr, mais sur par exemple, les personnages, alors peut-être dans Cordélia et aussi dans Épopée, un personnage, alors moi j'arrive pas du tout, alors est-ce que c'est à Ovid que je dois ça ou à des choses enfouies, je sais pas, mais je n'arrive pas du tout à concevoir un personnage qui va rester le même.
Le même, stable donc.
Stable, qui va garder le même nom, qui aura une identité, qui aura des traits de caractère, qui aura une psychologie, qui aura une position dans le monde ou la société dans laquelle il vit. Je crois que je les conçois, les personnages, comme des figures, et des figures qui peuvent être à un moment,
et d'ailleurs ils se raccrochent. Qui sont aussi en puissance de devenir autre chose, voilà, à un autre moment.
C'est ça. Ils se raccrochent au moment où ils sont, quand même, oui, autant qu'ils peuvent, parce que c'est angoissant de pas être... de pas y être. Mais n'empêche que moi, je crois que ça m'angoisse encore plus qu'ils y soient.
Oui, c'est la question du lieu pur,
oui, c'est
dont,
ça, c'est
dont je parlais tout à l'heure.
Mais comme il n'y a ni pur ni impur, il faut le lieu de hasard. Et le lieu de hasard, c'est le passage, en fait.
Et on se retrouve donc dans votre dernier livre, Les enfants de l'aurore, paru chez Fayard, où là, effectivement, se retrouve la poésie gréco-latine et le fracas de l'aujourd'hui sur, justement, ces réfugiés dont vous vous occupez.
Oui. On les voit à la fin, on voit les... Enfin, on voit, j'espère qu'on voit, enfin, je crois qu'on voit toute une troupe de petits gamins guinéens fuir une sorte de représentation d'Alpha Condé qui les poursuivrait de la même manière que le fleuve, le Xanthe, dans l'Iliade, charrie les corps des soldats grecs et troyens qui sont avalés par lui.
Je le disais tout à l'heure, Marie Connet, vous avez un blog sur Mediapart où vous restituez aussi ces histoires de naufrages désespérantes, et ces histoires d'accueil encourageantes. C'est une chronique de notre infortune, au fond, et de la nôtre, pas de la leur, de la nôtre. C'est-à-dire ce qui est en train de nous arriver. Mmh. Il y a un an, vous y avez publié un billet qui m'a touché. Faiseuse d'histoire. Tu es une faiseuse d'histoire. On me disait enfant, j'étais une faiseuse d'histoire. J'aimais attraper le bout d'une histoire et en faire un gros morceau. Faiseuse d'histoire. Le sens est tout près de faiseuse d'ennui. Entre histoire et ennui, complication, embâge, comme on lit en latin chez Ovid. Le revoilà. D'histoire, on irait à dispute, peut-être. Petite, il fallait que l'histoire me surprenne, qu'elle me surprenne encore plus quand je la racontais pour la deuxième fois. Et la troisième fois, il ne fallait pas qu'elle ait vieilli, il fallait qu'elle me surprenne encore et encore et surprenne les gens que j'aimais, à qui je la racontais.
Pareil. Ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé. Celle qui revient, qui surprend, et qui est effectivement d'une puissance intacte et inentamée.
Ouais. Ce qui fait aussi, moi je me souviens bien de l'écriture de ce texte, parce qu'il est arrivé ce texte après... alors c'est assez intéressant, parce qu'en effet, ce qui nous arrive et qui fait que peut-être c'est notre échec, c'est de pas réussir à accueillir, on est très nombreux à tenter de faire en sorte d'accueillir, et on est très nombreux aussi à ne pas savoir le faire, ou à ne pas savoir le faire toujours... de la manière la plus éthique, je sais pas comment le dire, la plus généreuse ou la plus limitée aussi. Alors un exemple, c'est que les gens qui arrivent et qui arrivent dans nos maisons, puisque les institutions ne les reçoivent pas et qu'il n'y a pas de solution, quelquefois ils arrivent avec leurs histoires. Ils sont faiseurs d'histoires aussi, c'est normal. C'est des histoires qui ont permis de survivre. C'est des histoires qui se sont grossies d'autres histoires. C'est des histoires...
Et... Celles que vous entendiez déjà à Bayonne en 2008 avec les sans-papiers. C'est-à-dire que là, vous êtes toujours, Marie Connet, dans votre rôle.
Voilà, et ces histoires-là, quand elles rencontrent les gens qui accueillent, et si on fait comme le commissaire de Bernadette Soubirous tout à l'heure, à vouloir exactement savoir de quelle histoire il s'agit et savoir ce qui est vrai et ce qui est faux dans cette histoire, bien sûr que les réseaux d'accueil, les réseaux hospitaliers, d'hospitalité risquent d'être déçus parce qu'ils n'ont pas la vraie histoire. Et j'avais raconté, et j'avais commencé ce billet parce que il s'était passé ça, il s'était passé que des gamins avaient raconté des histoires qui sont un peu vraies et puis un peu grossies de faux. Voilà, ce sont des histoires grossies, ce sont des histoires qui sont destinées à ce qu'on les croit, parce qu'on peut les croire comme ça. Et les personnes qui les avaient reçues et qui avaient été déçues par les personnes, eux, croyaient à la vérité, croyaient à une vérité, croyaient que c'était possible d'entendre dans ces histoires quelque chose qui soit vrai, quelque chose qui soit faux. En fait, elles étaient un peu comme le commissaire. Et donc, ça avait été un peu douloureux à ce moment-là de faire comprendre ça en toute... En très grand respect de tout le monde, que le un peu faux peut être quand même parfois plus vrai que le vrai.
Oui, et votre travail à vous, Marie Connet, en tant que poète et écrivaine, c'est avec cette impuissance politique de faire des histoires.
Oui,
que ça fasse des histoires.
Oui, que c'est exactement. Et c'est aussi de... Alors, peut-être que c'est plus facile parce qu'on peut en faire des histoires, mais c'est de reconnaître l'impuissance politique. C'est pas... Alors, c'est pas de s'y complaire, parce que de l'impuissance, on peut faire plein de petites choses qui sont des puissances, plein de petites puissances. Mais c'est de ne pas se vouloir puissant contre l'impuissance. Parce que ça sera pas mieux.
Ça ne marchera pas.
Ça marchera pas.
Et donc c'est là où vous logez votre colère, Marie Collet, c'est la colère poétique, la colère contre l'inattention, en somme, celle de la rage de l'expression. C'est ça en fait place que vous assignez à rapport entre poésie et histoire.
Je ne sais pas si aujourd'hui je dirais colère. Je crois que, alors pour revenir au blog et à comment arrive un texte, parce que les textes de blog, contrairement peut-être aux textes qui vont après faire un livre, ils surgissent en fait, ils arrivent d'un moment qui en effet est pas loin de la colère, mais c'est pas la colère, c'est plutôt la douleur, c'est plutôt quelque chose qui fait douleur au corps. J'arrive pas à dormir ou à respirer ou à, je sais pas, enfin quelque chose est empêché dans le corps. Il y a des symptômes, en tout cas.
Et des métamorphoses aussi.
Voilà, il y a quelque chose comme si on vivait cette expérience-là de la métamorphose. Et alors, je sais très bien qu'il y a un schéma là qui est en train de naître, de grossir, et qu'il faut le dire, mais je résiste un peu. Et puis après, je l'écris. Alors, ça ressemble à de la colère. Ça ressemble à, en tout cas, à quelque chose de trop. Il y a du trop. Et voilà. Mais c'est une douleur, oui.
Merci Marie Connet.
Merci beaucoup Patrick Bouchon.
Matière à penser, Marie Connet, Alain Joubert, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. Demain, j'aurai le plaisir d'accueillir Yvan Mignot, le traducteur de Klebnikov aux éditions Verdier, qui nous parlera de la poésie en révolution. Bonne soirée.